Je vous invite à entendre, presque comme chaque année, le même texte, mais finalement, à l'étoile, nous l'aimons bien, puisqu'il s'agit de suivre une étoile. Donc, le texte des mages, le chapitre 2 de l'Évangile selon Matthieu. Après la naissance de Jésus, à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi, je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et les offrirent en présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à nouvel ordre. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire disparaître. » Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère, se retira en Égypte et y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il fit supprimer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Alors, je dois bien l'avouer, c'est difficile de prêcher tous les ans sur le même texte. Heureusement, ici, on est 2 pasteurs, donc c'est 1 année sur 2. Mais il faut éviter de dire ce qu'a dit le collègue l'année précédente et éviter de dire ce qu'il y a 2 ans. Donc, c'est quand même un challenge. Alors, vous me direz, à Noël et à Pâques, c'est pareil. Mais les textes de Noël et les textes de Pâques, d'abord, sont beaucoup plus denses, beaucoup plus complexes. Et puis, ils sont présents dans les 4 évangiles, même s'il n'y a pas vraiment de récit de Noël chez Marc et chez Jean, il y a tout de même de quoi puiser pour annoncer la naissance de Jésus dans ces évangiles. Mais par contre, ce texte-là, il n'est que dans Matthieu. Pas de mages chez les autres, juste dans Matthieu. Et c'est toujours le même. Et puis, je dois bien l'avouer, finalement, j'y trouve quand même moins de richesse que dans les récits de Noël et surtout dans les récits de la Passion et de la Résurrection. Mais après tout, comme je le disais tout à l'heure, suivre une étoile, c'est quelque chose qu'ici, nous aimons bien faire. Alors, c'est vrai que là, sur la voûte, il y a beaucoup d'étoiles. Je sais que quelqu'un les a comptées un jour, je ne sais pas combien il y en a. Mais bon, un certain nombre. Alors, laquelle choisir, je ne sais pas. En tout cas, les mages, eux, en suivaient une. Et ils sont arrivés, grâce à cela, à Bethléem. Et puis, ce texte, eh bien, on peut y trouver quand même quelques échos, même avec notre actualité. J'entends dans ce texte deux thèmes principaux, et deux thèmes principaux qui vont parcourir tout l'évangile de Matthieu. Parce que, comme je le disais, ce texte, ce récit n'existe que chez Matthieu. Et ce n'est pas un hasard, parce que l'évangile de Matthieu est un vrai récit construit théologique, avec une visée théologique. Alors, évidemment, chaque évangile nous raconte la vie de Jésus, mais chaque évangile nous montre aussi certains aspects de cette vie de Jésus, et aussi certains thèmes qui reviennent dans les évangiles et pas forcément dans les autres. Alors, le premier thème que l'on trouve chez Matthieu, c'est l'universalisme, et je vais y venir tout de suite. Et puis, le deuxième thème, c'est la violence. La violence qui est là, présente au début, la violence que l'on va retrouver à la croix, mais qui est omniprésente tout le temps dans l'évangile de Matthieu, bien plus que dans les autres évangiles. Violence même dans les paroles de Jésus. Et c'est ce que nous verrons. Alors, je voudrais d'abord commencer par le faire très brièvement, parce qu'on le fait souvent, pratiquement chaque année, par gommer les idées reçues sur ces mages. Alors déjà, ces mages, ils ne sont pas rois, contrairement à la légende, et ils ne sont peut-être pas trois, peut-être qu'ils le sont, on ne sait pas, on ne connaît pas leur nombre, et puis on ne connaît pas leur nom. Donc on va laisser de côté Gaspard, Melchior et Balthazar. D'ailleurs, il y a une légende d'un quatrième mage qui serait arrivé après. Eh bien, cela permet aussi de faire marcher notre imagination. Pourquoi trois ? Peut-être parce qu'il y a trois cadeaux, mais en réalité, il faut entendre le chiffre trois de manière très symbolique dans ces trois cadeaux. Le trois d'une certaine plénitude. Et puis, même ces cadeaux sont fort symboliques. L'or qui va représenter une certaine richesse, la dimension humaine, et puis l'encens, ce cadeau que l'on fait à Dieu, l'encens aussi qui peut nous dire aussi la part un peu divine de cet enfant. Et enfin, la myrrhe, évidemment très précieux, parfum très précieux, mais la myrrhe aussi qui sert à embaumer. Ainsi, ces trois cadeaux, eh bien, en quelque sorte, dès la naissance, annoncent l'identité du Christ qui sera à rechercher tout au long de l'Évangile et tout au long de nos vies d'ailleurs, sa nature humaine et sa nature divine. Et ces cadeaux annoncent également, en quelque sorte, à travers la myrrhe, la mort déjà présente dans ces petits enfants. Les mages, qui sont-ils alors ? Eh bien, les mages, c'est des sortes de sages venant d'Orient, probablement de Perse. D'ailleurs, c'est un mot qui est dérivé d'un mot perse qui était une caste sacerdotale chez les Perses, chez les Mèdes, enfin, dans ce pays qui recouvre à peu près l'Iran actuel. Eh bien, ces mages, ils sont un peu astrologues, mais à l'époque, les astrologues étaient aussi astronomes, tout cela se le mélangeait également, un peu devins, un peu, ils lisaient probablement l'avenir, mais ils lisaient aussi le présent. C'était en quelque sorte, suivant les endroits, suivant les temps et suivant les personnes, certainement des savants et des sages. Donc ces mages viennent de Perse, d'Iran, c'est-à-dire ils viennent d'Orient. Cet Orient d'ailleurs, qui est vu de manière très positive par les Hébreux. Autant l'Occident, la mer, l'endroit où le soleil se couche, est le lieu de la mort, le lieu de la paix, autant cet Orient est le lieu du renouveau, puisque chaque matin, c'est à l'Est, à l'Orient, que le soleil se lève. C'est le lieu, en effet, de la promesse. Donc finalement, ces mages qui viennent d'Orient sont nous montrent la promesse à venir. Ils sont là pour nous dire qu'à travers ce petit enfant, la naissance de ce petit enfant, eh bien, il existe une promesse, une vraie promesse de renouveau, que chaque jour, en effet, tout peut se renouveler. Mais, comme je vous l'ai dit, cet épisode des mages porte en lui les germes du conflit entre Jésus et les autorités. conflit qui le conduira à la passion et à la mort. Et aussi, il est le début d'une longue réflexion dans l'Évangile selon saint Matthieu sur l'universalisme de la bonne nouvelle. Parce que Matthieu s'ouvre par la généalogie de Jésus. D'ailleurs, il est probable, on pense aujourd'hui, que l'évangile de Matthieu s'adressait à une communauté et certainement de chrétiens convertis, mais de chrétiens venant du judaïsme. Donc, quoi de plus naturel que d'inscrire Jésus dans la généalogie de David ? Il est, après tout, le Messie tant annoncé et qui devait être un descendant de David. Donc, on l'inscrit dans cette généalogie, dans cette lignée. Mais vous le savez bien, d'entrée, il y a un décrochage, puisque Jésus n'est pas tant le descendant de David, puisque Joseph n'est pas vraiment son père. Et puis, que sait-on de Marie ? Eh bien, chez Matthieu, rien du tout. Chez Matthieu, d'ailleurs, Marie a un rôle très petit. Elle est la fiancée, elle est la mère de Jésus. Mais en elle-même, on ne sait pas trop qui elle est et quelle est son existence. Ainsi, on nous dit aussi à la fois l'appartenance, mais aussi la fragilité de cette appartenance. Et puis, il y a un changement radical. Désormais, il ne s'agira plus d'une religion d'appartenance par la lignée, mais bien d'une adhésion à un projet, de la réponse à un appel. Et là, les mages sont là pour nous montrer. Eux, ils ne sont pas dans la lignée. Mais eux, ils voient l'étoile, ils répondent à l'appel qu'ils entendent. L'itinéraire, d'ailleurs, de tout l'Évangile va permettre de conclure à cela, c'est-à-dire qu'il y a une rupture totale avec cette religion qui s'inscrit dans le sang. D'ailleurs, Jésus, ressuscité, va dire tout à fait à la fin de l'Évangile de Matthieu, « Allez, et de toutes les nations faites des disciples, envoie. » On ne peut plus explicite quant à la portée universelle de la bonne nouvelle de l'Évangile. Matthieu donc s'adresse à des Juifs, mais pourtant la dimension universelle est inscrite dès l'ouverture. Donc, comme je vous le disais, chaque Évangile a une visée théologique particulière et l'inscription des mages dans l'Évangile de Matthieu est loin d'être anodine. Elle nous dit d'entrée cette dimension universelle. Même les autres, ceux qui viennent d'ailleurs, peuvent reconnaître le roi des Juifs, qui aura d'autres appellations et qui d'ailleurs sera complètement reconnu tout à fait à la fin de l'Évangile également, juste après la mort de Jésus, par un autre étranger. Un étranger là, lui, qui vient de l'Occident, qui vient de Rome, un centurion romain qui va reconnaître en Jésus et confesser « Celui-ci est le Fils de Dieu ». Alors, on le voit, l'Évangile, l'itinéraire de l'Évangile est un itinéraire d'ouverture. Certainement pas d'ouverture à n'importe quel prix, ni n'importe comment, mais ça, pour cela, il faudrait approfondir. Alors, ces mages, je vous l'ai dit, étaient des savants, mais des savants perses. Connaissaient-ils les Écritures ? Ces Écritures qui parsèment énormément tous les évangiles et particulièrement ce début de l'évangile de Matthieu. Je ne sais pas s'il le connaissait. Avait-il lu aussi ce fameux psaume 2 qui annonce la venue du Messie qui est interprété par tous les Juifs de tous les temps comme le psaume, un psaume messianique qui annonce la venue eh bien, du Messie, c'est-à-dire de loin, du Christ en grec, c'est la même chose que certains attendent encore. Ce psaume 2 qui nous dit « Quand l'Éternel parle, c'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel, il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Alors, peut-être qu'ils en avaient connaissance, ou pas. On dit souvent qu'ils n'en savaient rien. Je ne sais pas, finalement, les savants, ils s'intéressent aussi à ce qui se passe dans les pays à côté et que notre savoir et notre connaissance et notre culture n'est pas forcément cantonnée par des frontières et qu'on peut être français et aimer la littérature sud-américaine et, à la limite, être chrétien et aimer des textes d'autres religions et s'y intéresser. Peut-être que les mages les aimaient. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de voir la manière dont ils vont répondre. Parce qu'eux, ils vont répondre à l'appel. Ils ne sont pas des spécialistes comme ceux que Hérode consulte de cette Bible que lisaient les Juifs à l'époque, qui correspond à peu près à notre Ancien Testament aujourd'hui. Ils ne sont pas des spécialistes, mais finalement, ça va leur donner une certaine liberté. Ils ne sont pas figés dans leur savoir, leur quotidien, et ils sont encore capables d'émerveillement. Parce que lorsqu'Hérode consulte tous ceux qui doivent savoir, il n'a pas de réponse. La seule réponse, justement, c'est d'être capable, parfois, de quitter tout ce que l'on sait, tout ce que l'on croit savoir, pour simplement se laisser émerveiller. Et ça, c'est quand même une belle leçon, encore aujourd'hui. Laissons-nous émerveiller. Là, ils vont être émerveillés dans la joie par la vue de quoi ? D'une étoile, d'un petit enfant, c'est quand même pas grand-chose. Eh bien, à travers cela, ils vont savoir percevoir qui il est. Ainsi, il nous montre que la foi, la grâce, l'amour n'a rien à voir avec le savoir ou la connaissance. C'est d'un autre ordre. Il faut accepter de tout quitter, c'est ce qu'ils ont fait. De lâcher prise, pour oser l'aventure. L'aventure qui nous conduira, nous aussi, vers celui-là. Celui qui est devenu comme un petit enfant, mais qui est encore présent aujourd'hui dans nos vies. Oser tout quitter, oser croire, oser aimer, c'est ce qu'ils ont fait. Et je pense que c'est là quelque chose de tout à fait important. Les mages sont certes au bénéfice d'une révélation miraculeuse et au bénéfice aussi par la suite d'un autre songe. Ils ont su voir l'étoile, ils ont su discerner, entendre la voix de Dieu dans leur songe. Les mages sont là pour nous dire aussi qu'en effet, Dieu nous donne des signes, mais il faut savoir les interpréter. Il faut savoir répondre. Il faut savoir, en quelque sorte, mêler notre sagesse, notre discernement humain à l'appel de Dieu. Dieu nous donne des signes encore aujourd'hui. Alors, parfois, c'est un peu difficile de trouver l'étoile au milieu de toutes les étoiles. Il nous donne encore des signes aujourd'hui afin que nous puissions encore et toujours nous émerveiller et non pas continuellement être là à regarder notre monde par ce qu'il a de plus horrible, de plus hideux. C'est ce que nous serions tentés de faire et je ne voudrais surtout pas gommer d'ailleurs ce qui ne va pas dans le monde. Et je vais y arriver tout de suite. Le texte ne gomme jamais ça ici. Mais garder tout de même intacte cette capacité à voir le bon, à voir le beau, à discerner et continuer à aimer et à croire. C'est à mon avis la leçon des mages. Alors, eux, les étrangers venus de l'Orient, ont su reconnaître en Jésus le roi des Juifs. Mais la reconnaissance elle-même ne suffit pas. Elle peut même être pervertie. C'est ce qu'Hérode va faire. Parce que Hérode sait très bien à qui il a affaire. Il le sait, mais il sait aussi que ce tout petit, va probablement lui faire de l'ombre. Alors, lui, au lieu de se mettre à genoux et d'adorer, c'est-à-dire d'aimer et croire, lui, il va déchaîner sa violence. La violence de tous les tyrans du monde, la haine, le meurtre, le crime, c'est ce qui va arriver avec Hérode. Donc, et on le voit à plusieurs endroits dans l'Évangile, il ne suffit pas de reconnaître la puissance de ce Dieu que nous confessons, mais faut-il encore en faire bon usage ? Il ne suffit pas de confesser, d'avoir la bonne confession de foi. Non, il faut savoir aussi répondre et agir de manière bonne et juste, comme l'ont fait les mages. Alors, je le disais, ce texte ne gomme pas la violence. D'ailleurs, j'ai continué un peu, parce que vous l'avez entendu, ce récit du massacre des enfants est quelque chose qui ne peut que nous interroger. Pourquoi Matthieu a-t-il inscrit là d'entrée ce récit, qui n'a probablement rien d'historique?
On peut trouver des traces historiques dans la cruauté du roi Hérode. On sait que ça a été un tyran cruel. Bon, par ailleurs, très grand bâtisseur. Il a quand même quelques qualités. Mais qu'il a tyrannisé et qu'il a été haï par son peuple, par tous les siens, et que finalement, lorsqu'il est mort, eh bien, tout le monde s'est réjoui. Alors, on peut trouver la cruauté d'Hérode, mais pas de traces du massacre des enfants. Pourtant, eh bien, Matthieu nous raconte cela. Comme je vous le dis, il a une visée théologique. L'universalité, comme on l'a vu à travers les mages, mais aussi le centurion romain, à travers là aussi, au cœur de l'Évangile, cette femme étrangère qui va le convertir en quelque sorte. Et enfin, il va comprendre, lorsque Jésus va comprendre qu'il doit s'adresser à tous et qu'il n'est pas venu uniquement pour le peuple juif, eh bien, dans cette réflexion sur l'universalité est liée, à mon avis, intimement à la réflexion sur la violence. Je ne voudrais pas les séparer. Ce sont deux thèmes très importants chez Matthieu. Et cela nous montre que cette ouverture, eh bien, peut déclencher la violence. Je pense que quand je le dis ça, vous entendez tous des échos à notre actualité. Nous sommes invités, en effet, à nous ouvrir, à partager avec les autres. Mais, eh bien, cette ouverture, ce partage, cet universalisme, eh bien, peut déclencher la violence. Et ce n'est pas que ça, probablement, qui déclenche la violence d'Hérode. La violence d'Hérode, c'est la jalousie, c'est la convoitise, c'est toutes ces choses-là qui sont tapies en nous, dans l'humanité, et pas qu'en Hérode. Alors, ces thèmes-là sont là dès l'ouverture de l'évangile de Matthieu. Dès ouverture, parce que dans la généalogie, déjà, est inscrite la violence. La généalogie qui n'est pas merveilleuse. Il y a du meurtre, il y a de l'inceste. Meurtre, on rappelle le meurtre de David, qu'envoie à la mort le mari de la femme qu'il convoite. Meurtre aussi, à travers ce que font les rois, qui sont cette succession de rois dans la généalogie, qui font pratiquement tous ce qui est mal aux yeux de Dieu. Eh bien oui, dans la généalogie de Jésus, même s'il y a un décrochage à la fin, il y a du meurtre, de l'inceste, de la violence. Cela nous dit qu'en effet, la violence est dans notre monde. Il y a cette violence donc par la généalogie, la Genèse, cette violence presque inscrite dans nos gènes. Mais cette violence, nous pouvons y échapper, et c'est ce qu'a fait le Christ. Il peut y avoir dans notre généalogie propre, dans nos ancêtres, des secrets, de la violence, des choses horribles. Et probablement que tous ici, nous avons cela derrière nous, en nous. Eh bien, malgré tout, nous pouvons y échapper, nous pouvons rompre et ne pas reproduire. À mon avis, c'est ça aussi qui est très important et qui nous est dit. Et puis, il y a cette autre violence, beaucoup plus structurelle, qui nous est dite à travers le meurtre de ses enfants. En fait, cette violence-là existe aussi toujours. C'est la violence, eh bien, de nos sociétés. Alors, il y a bien sûr, dans ce récit, un rappel à l'histoire de Moïse. D'ailleurs, Jésus, dans l'évangile de Matthieu, est en quelque sorte un nouveau Moïse. Il y a ce massacre des enfants inscrit au début de sa vie, comme au début de la vie de Moïse, comme pour nous dire qu'Hérode est ce tyran comme était le Pharaon. Il y a de nombreux indices, de petits cailloux pour nous dire que Jésus est un nouveau Moïse. Parce que Jésus, s'il va partir en Égypte avec son père et sa mère, il va revenir. Et une fois adulte, eh bien, il va prêcher. Et cette fois-ci, il ne fuira pas. Il ira jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Ainsi, dès le début, on nous dit aussi combien sa vie est précaire, combien le message qu'il donne, même si c'est un message d'amour, eh bien ce message-là se heurte à la violence des autres. C'est quelque chose de très important. Jésus est en quelque sorte un nouveau Moïse qui vient sauver son peuple, mais son peuple, désormais, c'est toute l'humanité. Il y a bien donc ce rapprochement entre Moïse et Jésus, mais il y a aussi ce dépassement, ce dépassement qui va être tout à fait dit de manière magnifique dans cette scène de la transfiguration. Vous savez, Moïse va rencontrer Dieu et il va avoir le visage brillant. Mais le Christ, c'est son corps entier qui va briller, ce moment de la transfiguration. Son corps entier, comme figure de l'humanité entière. Désormais, avec la venue du Christ, nous sommes tous appelés à répondre à son appel. Tous, quel que soit notre âge, quelle que soit notre race, quelle que soit notre identité, quelles que soient nos forces, quelles que soient nos faiblesses, eh bien oui, il nous appelle. Et nous pouvons, nous aussi, tisser notre vie avec la sienne, un peu comme les mages l'ont fait. Ainsi, Jésus revient et il est solidaire des malheurs de son peuple. Cela est préfiguré, en effet, à travers ce récit du massacre des enfants. La violence n'est pas gommée, mais la violence est en quelque sorte dépassée. Elle sera dépassée d'ailleurs à la croix. Jésus le sait, tout au long de l'évangile de Matthieu, il aura des gestes violents, mais évidemment, ça n'a rien à voir avec la violence qui se déchaîne contre lui lorsqu'il balance les marchands du temple. Il aura aussi des paroles extrêmement violentes. D'ailleurs, il le dit lui-même, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, mais l'épée. » Et lorsqu'il y a cette, à la fin de l'évangile de Matthieu, ce qu'on appelle la parabole, cette parabole qui nous appelle à l'accueillir, c'est à accueillir tous les autres. Mais après cette parabole, il y a en effet des paroles difficiles à entendre, ce jugement dernier. Eh bien, malgré tout, malgré cela, à travers sa naissance et la manière dont les mages sont prosternes devant lui, à travers ce massacre des enfants, mais aussi cette fuite en Égypte et ce retour, il y a en quelque sorte l'annonce de sa mort et de sa résurrection. Il va traverser à travers sa vie. Il va traverser la mort et il va revenir ressuscité. Et lorsqu'il revient ressuscité, tout comme avant d'ailleurs, jamais de parole ni d'appel à la vengeance ou à la violence. Parce que la violence, il la décrit, il la dénonce, mais jamais il appelle à la violence. La réponse à la violence, eh bien, c'est l'amour. Oh, l'amour de Jésus est très exigeant, ça n'a rien de mou, mais c'est quelque chose d'extrêmement difficile parfois même à entendre. Mais la réponse à la violence, c'est l'amour. L'amour et la foi. Jésus, lui, en fera l'expérience jusqu'à la fin. Mais il gardera cet amour et cette foi en nous. Et pourtant, il aurait eu des raisons de douter. Aucune trace de vengeance en lui. Bien au contraire, il y aura ces paroles tout à fait à la fin de l'évangile de Matthieu, ces paroles merveilleuses où il envoie la réponse à la violence, eh bien, c'est l'annonce de la bonne nouvelle à tous et à toutes. Nous ne pouvons pas répondre à la violence par la violence, mais nous pouvons répondre à la violence en prenant des risques, certes, peut-être pas autant que lui, encore que, eh bien, certains les prennent, ces risques, aujourd'hui. Eh bien, la réponse à la violence, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Allez, et de toutes les nations, faites des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai appris. Et que nous a-t-il appris ? Il nous a appris l'amour, le pardon. Il nous a appris à croire, à aimer. Il nous a appris à garder aussi notre regard émerveillé, comme les mages. Et c'est cet émerveillement qui fait que nous pouvons continuer à aimer et à croire. Ainsi, cette histoire des mages, eh bien, elle est là pour nous appeler à regarder le monde avec un nouveau regard, un regard qui nous permet encore de discerner le bon et le beau. Un regard et un cœur qui nous permet encore d'aimer et de croire, malgré tout et contre tout. Cette histoire des mages nous invite à suivre cette étoile qui nous conduit, malgré tout et contre tout, au-dessus de celui que nous confessons jour après jour, Jésus, le Christ, c'est-à-dire un Dieu d'amour. Amen.